Chapitre 5e. Depuis une semaine déjà, Simone restait enfermée en sa chambre, ne voulant pas regagner l'usine de Papa Gosselet, raccroche à l'espoir d'avoir des nouvelles d'André. Elle attendait le retour de l'embaumé, parti à la recherche de travail, rêvant, écrivant à l'aimé des lettres passionnées qui lui rendaient sa solitude plus triste. Elle lui disait « Comme c'est mal fait, le chemin de la vie est dur à gravir. » Et pour ne pas l'attrister, elle ajoutait « Je ne me plains pas, mais je me débat sous des révoltes constantes. » Elle lui écrivait encore « Si seulement c'était toi, le bon Dieu, dis, tu ne ferais pas de pauvres petites qui ont froid, des enfants qui ont faim, des vieux qui se tuent, ni un tas de malheureux qui ont mal de tout. Moi, je ne peux pas comprendre ça. » Puis, son cœur gonflé s'épanchait en tendresses exquises. « Oh, comme tout de même c'est là tout, aimer. Ça remplit mes journées, mes longues nuits. Comme si mon âme tout le temps t'enveloppait, te caressait. Oh, comme c'est bon. Dans mes pensées d'amour, je ne t'appelle jamais d'aucun nom. Tu es lui, lui, le seul, celui que j'attends et que j'attendais depuis longtemps, celui pour qui j'ai dû être créé. Et pour toi, sans cesse exposé au danger, à la mort, je retrouve parfois des bouts de prières ardentes et douces comme en font ces religieuses au milieu desquelles j'étais. Pour celui bien-aimé et ineffable, céleste nourriture de leur âme, amant mystique de leur cœur, prends-moi dans tes bras et embrasse-moi. Je t'aime. » La petite bossue rentrait au logis le soir, toujours plus lasse, toujours plus attristée de ses courses inutiles à travers les ateliers. Elle disait ses ennuis, ses dégoûts, conseillait son amie la résignation. Simone répondait « Baste, tout n'est pas perdu, je réfléchirai, je verrai. Je prendrai une décision demain ou après. D'ailleurs, il nous reste encore de l'argent. » Les têtes penchées sous l'abat-jour rose de la lampe, les petites amies rangeaient les pièces blanches par piles, les doigts emmêlés à la cueillette des gros sous sur le tapis de la table, semblables à deux vieilles avares heureuses de caresser les métaux précieux. Le petit pécule diminuait vite, malgré l'économie de l'embaumé, qui, plus experte dans l'art de se servir de l'argent, avait été nommée trésorière de la communauté. La faiseuse de sourires avait cependant renoncé à l'une de ses plus coûteuses habitudes de luxe. Elle oubliait d'épingler un bouquet de violettes à son corsage quand, le matin, elle descendait 6 étages, en savate, en camisole, les cheveux tout embrouillés, pour acheter le petit quotidien. Elle était si curieuse, dès l'aube venue, de savoir si l'héroïne du feuilleton, Herminie l'abandonnée, avait enfin triomphé de ses bourreaux, qu'elle arrivait parfois chez la libraire bien avant la distribution du journal. Herminie l'abandonnée. Quelle jolie fille, pure, aimante, spirituelle, gaie. Elle promenait sa vertu de par le monde, comme une précieuse douzaine d'œufs. Elle savait arracher sa robe de mousseline des mains du petit vicomte sans y faire le moindre accroc. Elle buvait les poisons des Indiens comme d'autres ingurgites des saladiers de vin chaud. Les coups de couteau n'égratignaient jamais sa charmante peau. Elle sortait d'une demi-douzaine de cercueils comme aux sortes d'armoires à double fond. Son amoureux, le beau sculpteur de la roche cassée, était sublime de générosité bébête, fort comme un tartarin à double muscle, courageux comme D'Artagnan, artiste comme Michel-Ange, tout simplement. Doué de ses belles qualités, il courait le monde, lui aussi, à la recherche d'Herminie l'abandonnée, mais avait grand soin d'arriver toujours trop tard, en carabinier d'Offenbach. Herminie l'abandonnée, feuilleton en 6 parties, par Oscar de Machin, était d'une cocasserie dangereuse pour les lecteurs atteints d'affection de la rate, ce qui n'empêchait pas l'embaumé de verser son petit pleur sincère à tous les « oh » et les « ah » qui coûtaient 1,25 francs chaque aux actionnaires du petit quotidien. Tous les matins, l'embaumé racontait à son ami les malheurs de cette pauvre Herminie. Elle montrait le poing à Fripouillet, le faux policier, injuriait le méchant petit vicomte, appelait à la rescousse le beau Sylvain de la Roche Cassée, empêtré dans quelque vilaine histoire de fausse monnaie. Simone souriait, indulgente, étonnée de voir son amie épouser si chaudement les querelles de personnages invraisemblables. Elle pensait confusément que manœuvriers et manœuvrières gaspillent leur juste haine en maudissant les forts, les mauvais des romans ou des drames de cap et d'épée. Il ne restait plus qu'un louis dans les caisses de la communauté quand la petite bossue rentra un soir au logis le teint rose, les cheveux défrisés, le corsage fleuri de violettes de Parme. Ouf, ça y est. Est-ce que j'ai couru pour t'annoncer la bonne nouvelle ? Tu m'as tutoyé, enfin. puisque c'est fait, je n'osais pas. Il me semble que nous serons plus amis qu'avant. Bien, et ta bonne nouvelle? Une amie que j'ai rencontrée ce matin m'a conseillé de me présenter chez une couturière de la rue du Havre, madame, un drôle de nom, madame Freudbourg, au numéro 309. J'y vais, et demande à la concierge à quel étage se trouve l'atelier de couture. Elle me grogne du fond de la loge, sonnez au troisième. Arrivé sur le palier du troisième étage, je vois une grande plaque de cuivre sur une porte. Je m'approche, j'entends des rires derrière. J'étais étonné parce qu'on ne rit pas si fort que ça dans les ateliers de couture bien tenus. Enfin, je sonne, on ouvre. « Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle ?»«
Je suis couturière, madame. »«
Ah, vous êtes couturière. » C'était la patronne qui était venue m'ouvrir. Une grande brune, 30 ans, l'air pas trop comme il faut. Elle m'a lorgné, examiné, puis, souriant, « Adressez-vous donc chez madame Freudbourg en face. » Comme elle poussait la porte, j'ai entendu « Elle est très bonne pour la vieille, celle-là. » Une douzaine de rires lui ont répondu dans les pièces voisines de l'antichambre. Chez madame Freudbourg, où je sonne, c'est la patronne qui me reçoit. Une vieille patronne qui, avec ses bandeaux gris et son serre-tête noir, ressemble aux bonnes femmes de ma province. Elle a, dans son visage, de vendredi saint, deux petits yeux piqués comme deux clous usés par la marche. Elle me regarde avec ses petits clous. « Vous avez sonné à côté ?»«
Oui, madame. »
« Qu'avez-vous vu ?»
La patronne qui m'a conseillé, c'est tout?
Et vous veniez chez moi?
Je venais chez vous.
Vous savez qu'il faut travailler ici. J'étais tout étonné de l'accueil et j'allais même m'en aller quand la vieille m'a fait asseoir et m'a donné tout de suite une jupe à ourler. Le travail achevé, elle a paru satisfaite et m'a dit
« Je vous donnerai 3,50 francs par jour. Cela est-il suffisant?
Oui, madame.
Et je vous augmenterai samedi prochain si je suis contente de vous. »
Décidément, elle avait envie de me garder. J'étais joliment heureuse.
Son atelier n'est pas gai.
Elle a une 20aine d'ouvrières, plutôt maladroites qu'habiles, occupées à la confection de toilettes simples en étoffe commune. Jamais d'essayage chez elle. Elle livre des vêtements à une société protestante, je crois. On baille tout le temps. Les petites apprenties ont l'air d'écolières mises en pénitence. Dès que Madame Freudbourg fait une remontrance à une des ouvrières, les autres soupirent. Ah, ce qu'on s'amuse à côté. Ça l'a fait taire tout de suite, la pauvre vieille.
Ah, nous voilà sauvés, nous voilà sauvés.
Tu pourras attendre le retour de M. Bamberg, mon ami.
J'irai chez la bonne couturière, moi aussi.
Chez celle où l'on rit?
Non,
chez celle où l'on paille.
La soirée s'acheva en babillage et les deux petites amies burent 2 tasses de café noir pour fêter la reprise du travail et aussi le bonheur d'Herminie l'abandonnée qui venait d'épouser, le matin même, le beau peintre Sylvain de la Roche-Cassée.
Simone, un peu fatiguée, ne put se rendre dès le lendemain chez la vieille dame à serre-tête noire. Ce contretemps lui valut de recevoir, à la première distribution, une lettre adressée à son ami l'embaumé, mais qu'elle décacheta vite, ayant reconnu l'écriture d'André. Il lui disait « Cher aimé, je t'écris de la vallée du Coteau, une jolie petite vallée située à quelques kilomètres de Cana, la ville où est né Béanzin. Laisse-moi te dire tu. Il m'est si doux de te parler comme au temps où nous devisions sous la bonne garde du petit amour en plâtre qui a son socle sous les lilas. Je ne suis plus dans le parc, si bien ratissé de bon papa Gosselet. De l'autre côté du ruisseau qui nous sépare du camp de Sa Majesté, s'étagent de formidables batteries, des retranchements, des abris que nous enlèverons à la baïonnette dès que cela pourrait être agréable au colonel Dodds, qui aime tant sa légion étrangère. Nous autres, les légionnaires, nous sommes de toutes les fêtes. Nous nous battons à la diable, et de telle sorte que les perfectionnements des arts modernes semblent ne pas devoir être d'une grande utilité en face d'un ennemi tel que nous. Les Dahoméens sont bien armés, et ne se sauvent pas du tout comme on l'avait fait espérer aux bonnes têtes qui nous fabriquent des lois. La guerre aux Dahomés, baste. Une chasse aux lapins. Le lapin se défend. Je crois même que c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé puisque je suis arrivé ici juste à temps pour franchir la frontière dahoméenne. Juste à temps aussi pour prendre part au combat de Dogba, où nous nous sommes tous distingués, y compris les Amazones. Battus, les troupes de Béanzin s'étaient retranchées derrière un petit ruisseau, le Zou. C'est la légion étrangère qui, la première, a eu l'honneur d'aborder l'ennemi. Nous avons, je crois, fait plus de la moitié de la besogne, puisque les troupes composées d'éléments européens
n'ont eu qu'à passer sur le pont que nous avions enlevé de haute lutte. Quelques amis ont été blessés près de moi, qui n'aient reçu qu'un joli petit coup de crosse asséné par une Amazone. Comment sont les Amazones ? Très jolies, ma petite Parisienne. Sois jalouse. Toutefois, je ne crois pas que l'on puisse baptiser frimousse ce qui leur sert de visage. Elles ont une figure accidentée de creux et de bosses comme leur sacré pays. Je dis sacré pour te prouver que je suis déjà un très vieux briscard. Mais elles ont un torse agréablement bosselé, puisque je parle bosse. Elles font « ouh, ouh » espérant nous intimider comme de simples petits chaperons rouges. On a beau dire qu'elles se battent en guerrier, elles nous griffent et nous mordent le nez, si bien que quelques épisodes de nos combats ressemblent à des scènes de ménage ouvrier, ou tout simplement bourgeois. Elles se coiffent de petites capotes qui ne viennent pas de la rue de la Paix, mais qui sont d'un effet très belliqueux sur leurs faces amaigries et bronzées. Ce sont des semblants de petits bonnets de feutre ornés d'oreillettes de poils et de grands yeux jaunes. Tigresse, elle semble casquée de tête de chat. Mon voisin de bivouac a fait main basse sur le couvre-chef d'une de ses ennemies. Il a rangé ce colifichet tout au fond de son sac, sans doute pour en faire cadeau à quelque aimé. Il y a un peu de sang au fond de la coiffe, et aussi une petite déchirure dans l'étoffe par où est passée la balle d'un fusil Lebel. Tu ne trouveras rien de semblable dans ta corbeille de noces, ma chérie. Le rouge, si rouge il y a, sera le rouge tout neuf d'un bout de ruban gagné avec peine. Je ne puis pas me distinguer dans mon entourage de braves gens qui se font tuer le plus simplement du monde. Je compte sur quelques missions particulièrement difficiles d'où je reviendrai ton mari ou ne reviendrai pas. Pardon, mignonne, de faire pleurer tes grands yeux. Ma lettre était si gaie jusque-là. J'ai peur, vois-tu, peur non de la mort, peur de ne plus pouvoir te redire combien tu es aimée. Mais je me sens protégé par le bon petit dieu de plâtre qui lance des flèches. Si je mourais, je n'achève pas, et j'embrasse ton front pieusement, dévotement. J'embrasse aussi notre bonne petite amie l'embaumée. Je t'aime et te reviendrai, mon aimé. Je t'embrasse, mais de si loin. Je t'embrasse chaque soir en arrivant à l'étape. Si tu savais ce que je donnerais pour un seul baiser, et toi ? Conserve mon cœur, André Bamberg, de la Légion étrangère. P.S. D'autres amoureux se reposent à côté de moi, de notre marche périlleuse. En écrivant aux jolies filles laissées au pays de France, il leur demande « M'aimes-tu encore ?» Je les plains de tout mon cœur. Ah, s'ils avaient une Simone aimée, comme ils douteraient peu. Sois bonne pour Papa Gosselet, mon ami. Il a raison de défendre son argent. Au revoir, je t'aime. Veux-tu m'embrasser ? À toi, A. B. Monsieur Bamberg embrasse sa bonne petite amie l'embaumée, dit Simone à la petite bossue revenue de l'atelier. L'embaumée rougit. Il t'a écrit une longue lettre qui m'attriste. Il joue sa vie là-bas. Elles vont l'assassiner dans quelque embuscade. Qui, elle ? Les Amazones. Oh ! Il parle des Amazones. Je puis voir la lettre ? Mais certainement. L'embaumée lut la lettre à haute voix pendant que Simone rêvait, évoquant la petite vallée où André campait dans la brousse, en l'attente d'un combat où il pouvait être tué. Elle pensa tout haut. Enfin, pourquoi cette guerre ? Moi, je ne sais pas. Il est singulier que nos maris, nos fiancés, aillent à la mort, sans que nous sachions pourquoi, nous, femmes. Ça, c'est de la politique. C'est très difficile à comprendre, cette machine-là. Papa disait qu'en France, il n'y a pas plus de deux ou trois hommes qui savent pourquoi on se bat quand on déclare une guerre. Simone dit, « C'est un peu un héros, mon pauvre aimé. Il accomplit des choses extraordinaires. Et quand je pense qu'il n'avait qu'à me prendre, à m'aimer beaucoup jusqu'au jour de la grande réconciliation avec Papa Gosselet, enfin, sa lettre m'en rend courageuse. Je serai une bonne petite ouvrière, toute simple, toute franche. Les propos des hommes grossiers me feront sourire, à peine, au lieu de m'indigner, comme autrefois. Ce sera ma guerre, et je suis bien certaine d'en revenir saine et sauve. D'ailleurs, si les Amazones n'étaient pas plus à craindre que les très vieux messieurs et les inspecteurs à plastron rehaussé d'or, je ne craindrais pas tant pour la vie d'André. Demain, nous irons toutes deux chez la vieille où l'on baille. Tu n'iras pas. Et pourquoi, mademoiselle ? La lettre de M. Bamberg m'a fait oublier de te raconter que l'atelier où l'on rit est supprimé. Écoute, et tu verras que tu ne peux pas aller travailler rue du Havre. Pour moi, c'est bien différent. Tout le monde sait bien que je suis bossu et que... Taratata ! Tout le monde sait que tu as un brave petit cœur toujours prêt à se dévouer. Ce matin, chez la protestante, ma voisine d'atelier me dit à l'oreille : Vous n'avez pas voulu entrer dans la boîte ?
Quelle boîte ?
Que je lui fais. La boîte à côté. J'avais l'air si bête qu'elle m'expliquait pourquoi en s'amusant dans ce drôle d'atelier. Il y a trois couturières établies au 309 de la rue du Havre. C'est chez la belle patronne brune qu'on travaille le moins et qu'on gagne le plus. Les ouvrières y touchent des 6 francs par jour et n'ont qu'à croquer des bonbons, à boire des liqueurs très chères avec des messieurs venus pour causer. Elles chantent, elles se font des niches ou dansent autour de 2 mannequins en carton supportant une robe bleue et une robe rose, des robes commencées depuis 6 mois et qui ne seront jamais achevées. Quand une cliente se présente, les ouvrières sautent sur un bout de chiffon grand comme ça et font mine de coudre. Quand la dame est partie, sans avoir fait de commande, elles envoient tout balader et rigolent. À l'heure du déjeuner, la patronne les lâche pour ne pas éveiller les soupçons de la police. Elles descendent par bandes, sans mettre leur chapeau, et vont flâner devant les étalages des bijoutiers. Elles portent tout un ruban mauve épinglé au corsage. C'est l'insigne de la maison. Naturellement, les jeunes gens qui s'amusent n'hésitent pas à leur offrir à déjeuner. C'est du propre. Les parents qui envoient leurs filles dans cet atelier savent ce qui s'y passe.
Non, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ces choses-là.
Ça les étonne quand la gamine, qui gagnait 40 sous par jour avant d'entrer chez cette couturière, arrive à la maison avec des semaines de 40 francs. Mais comme ils en profitent, ils ne songent pas à douter de la pauvre petite qui assure avoir tant travaillé aux heures de veillée. Ma voisine achevait de m'expliquer ce qu'était la boîte quand on a sonné à la porte.
« Entrez, » dit la vieille.
Nous levons toute la tête, naturellement, et nous voyons un monsieur en redingote, ceint d'une écharpe, accompagné de 2 hommes vêtus de sales habits. L'un de ces 2 dit
« C'est la police !»«
Que personne ne sorte !» ajoute le commissaire. Les jeunes filles mineures qui sont ici vont être emmenées au dépôt où leurs parents pourront les réclamer.
Au dépôt, nous ne comprenions pas.
Une petite apprentie, qui a bien 12 ans, court se jeter aux pieds du commissaire en criant
« Ah, monsieur, laissez-moi partir, laissez-moi partir !»
La patronne qui cousait se lève, toute raide, toute pâle. Les ouvrières ont des crises de nerfs ou marchent à 4 pattes sous les tables pendant que toutes les apprenties hurlent à l'unisson. La vieille protestante veut, de ses doigts tremblants, mettre à la porte les hommes de la police. Elle bégaye.
« Vous vous trompez, messieurs. Messieurs !»«
Madame, des plaintes nombreuses, » assure le commissaire.
« Mais monsieur, il y a d'autres ateliers dans la maison, en face, par exemple. »«
En face. Je suis bien ici, chez Madame H. »«
Non, monsieur, non !»
dit la patronne, toute joyeuse.
« Vous êtes chez Madame Freudburg, chez moi. Je vais vous montrer mes en-têtes de lettres, mes factures et aussi mes quittances de loyer, si vous voulez. »«
Je regrette de vous avoir dérangé, madame.
Confusion, regrettable confusion. »
Les policiers partis, Madame Freudburg nous dit, grave comme un curé au prône.
« Vous voyez que rires et chansons vont conduire les pauvres filles en prison. La paix est aux humbles. »
« On a arrêté les ouvrières ?» demanda Simone.
« Non,
elles ont filé, prévenues par le concierge. » Quand la police a pu pénétrer dans l'atelier, elle n'a trouvé que les robes bleues et roses accrochées aux mannequins. « Maintenant, la maison a mauvaise renommée dans le quartier, et je ne veux pas que tu viennes avec moi. »«
Je ne veux pas pour ton fiancé, »